Allez, on va commencer tout doucement. Est-ce que tu as ton micro, Jean-Laurent ?
1, 2, 1, 2, tout est là.
Alors, donc, bienvenue à cette rencontre autour donc, de Jean-Laurent Del Socorro.
Bonsoir.
Bonsoir, Jean-Laurent. Ravi de t'avoir aux Utopiales. Je suis très, très content. Les Utopiales ont un rôle très important aussi. On ne le dit pas assez. C'est de faire découvrir des auteurs, de faire découvrir de nouveaux auteurs. Et c'est le cas ici avec Royaume de Vent et de Colère. Un livre qui n'est pas choisi du tout au hasard, puisque je l'ai lu attentivement, j'en ai même écrit la préface. C'est un ouvrage qui m'a énormément plu, qui prouve une grande maîtrise. Alors que c'est un premier. Est-ce que c'est bien un premier roman, hein, c'est ça ?
Alors on est réellement sur un premier roman, c'est-à-dire de textes longs, je n'en ai fait qu'un, et c'est celui-là.
Ouais. Voilà, parce qu'il y a souvent des auteurs qui publient leur premier roman, mais en fait ils ont déjà 3 ou 4 derrière. Donc on va parler de tout ça, on va parler de tes thématiques, on va parler de ton vécu, de ton rapport à l'imaginaire et de tous ces éléments-là. Et puis bien sûr, vous êtes tous invités sans attendre. Hein. C'est vraiment l'idée du dialogue, à poser des questions, à interroger Jean-Laurent sur son travail d'auteur, sur son parcours, etc. Alors peut-être la première chose, parce que maintenant moi je connais bien ton texte, mais je ne te connais pas encore bien toi. Et je trouve que cette rencontre est l'occasion, c'est pour ça que je l'ai vraiment voulu à ce moment-là précisément des Utopiales. Donc première chose, Jean-Laurent, premier roman, Royaume de Vent et de Colère, on va en parler tranquillement, longuement. Mais d'abord, ton rapport à l'imaginaire vient d'où ? Est-ce que cette envie d'écrire, ce rapport à l'imaginaire, ce rapport à la science-fiction, est-ce que ça vient de l'enfance ? Comme souvent on entend dire, je suis tombé dans l'imaginaire quand j'étais petit, les mythes, les légendes, etc. Ou est-ce que c'est plus récent ? Quels ont été les déclencheurs qui t'ont poussé vers l'imaginaire et vers l'écriture, d'abord ?
Alors, c'est deux chemins un peu différents. Le premier, moi, je dis toujours, avant d'être un auteur, je suis un lecteur. Et j'ai eu la chance d'avoir des livres autour de moi, d'abord des classiques, hein, du Balzac et ainsi de suite, du Poe. Donc j'étais d'abord un lecteur, très jeune, avant d'être un auteur et un lecteur, quel que soit le genre. Puis petit à petit, peut-être assez tard en fait, à partir de la vingtaine, j'ai commencé à m'intéresser à l'imaginaire et à découvrir petit à petit, à tirer des fils. On découvre Dune, on découvre... Fondation, voilà, tous les grands classiques, et puis on devient exigeant. Mais je trouve que c'est assez important de le dire et de le redire. Si je suis auteur aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a fait lire, on m'a fait aimer le goût de la lecture, et que je suis d'abord un lecteur. Alors pourquoi un auteur ? C'est un peu plus délicat, je pense, parce que je ne saurais pas vraiment le dire. Je pense que dans l'acte de dire un jour je vais écrire un livre, il y a peut-être de l'orgueil. Je pense qu'il y a toujours de l'orgueil au départ. Se dire, moi je peux faire mieux. Le moi-je un peu prétentieux. Et comme j'ai commencé il y a 4 ans maintenant par des petites nouvelles, c'était très mauvais. Alors je voudrais aussi dire que moi je ne suis pas du tout d'une filière littéraire, je suis issu de la biologie, je suis ingénieur agricole. Quand j'écris, je transpire et je sue sur mes concordances de temps, sur mes accords de verbe, j'ai un Becherel qui n'est jamais loin, et j'ai une équipe autour de moi de relecteurs qui travaillent à la fois sur le fond et la forme, pour lequel le récit compte beaucoup, vraiment.
Alors, très bien déjà de percevoir ça. J'aime beaucoup ton humilité, parce que c'est vrai que l'humilité n'est pas toujours du côté de l'auteur. Hein. C'est pas si fréquent que ça. Tu dis que tu as d'abord été lecteur, d'abord de classique, puis de classique de la science-fiction. Est-ce qu'il y a un livre en particulier, avant qu'on se plonge dans ton travail ? Est-ce qu'il y a un livre, un texte en particulier qui a joué le rôle de marqueur identitaire où tu t'es dit, voilà, ça, c'est ce que je voudrais faire. Ce livre a changé mon regard sur l'imaginaire, sur le monde, etc. C'est ce genre de choses que je voudrais écrire. Est-ce qu'il y a eu un livre particulier ou est-ce que c'est juste un ensemble de lectures et de...
Alors il y a peut-être eu 3 moments qui me sont restés. Donc moi j'ai eu une première rencontre, c'est avec un auteur, c'est Lovecraft, où j'ai découvert à la fois ce genre-là, donc entre le fantastique et l'horreur et la nouvelle. Je disais, j'étais peu un lecteur de nouvelles, ce qui est moins vrai aujourd'hui. Donc ça c'était un gros choc dans l'adolescence. C'est un hasard de la librairie parentale. Il y avait Dagon qui traînait. Donc ça, c'était un premier gros choc. Et les deux autres, c'est un classique, c'est Ulysse de James Joyce. Alors, je l'ai lu, je n'ai rien compris au texte. Enfin, vraiment, je pense que j'étais trop jeune pour le lire. Mais je me suis dit, ce texte a quelque chose, je n'arrive pas à le comprendre, je n'arrive pas à le percevoir, mais je sais que c'est un grand texte. Et là, je me suis dit, oui, l'écriture, elle peut être protéiforme, ça peut aussi être ça. Et dans les grands textes, après, qui m'ont marqué, il y a peut-être l'Hyperion de Dan Simmons.
De Dan Simmons, d'accord. Donc on a ces textes marquants, on arrive à ton premier roman, donc premier roman publié, hein, donc Royaume de Vent et de Colère aux éditions donc ActuSF. Alors il y a deux choses qui m'intéressent, d'abord les modalités qui t'ont amené à ce premier roman, comment ça s'est passé, et ensuite évidemment le sujet qui peut être surprenant par rapport aux repères que tu cites qui sont pas forcément annonciateurs de cette thématique-là. Alors d'abord, l'écriture de ce roman, ça je pense que ça intéresse aussi beaucoup de monde. Combien de temps cette écriture ? Est-ce que c'est quelque chose qui était en toi depuis longtemps ? Est-ce que tu l'as écrit et maturé et travaillé avec ton Becherel, comme tu le dis très bien, et c'est tellement tout à ton honneur, tellement d'auteurs qui commettent des erreurs d'accord et de grammaire dans leurs bouquins.
Mais j'en fais quand même.
Et, bien sûr, mais bon, qui justement passent au-dessus en disant « mais c'est pas grave, il y a des relecteurs, etc. » Donc, combien de temps pour ce premier texte, Royaume de Vent et de Colère, quelles ont été les étapes ? Est-ce que tu as eu une étape à un moment donné où tu t'es dit, je n'irai pas jusqu'au bout ? Parce qu'on dit souvent que les premiers romans sont difficiles parce qu'il faut aller au bout de ce premier roman et que beaucoup d'auteurs, beaucoup de gens écrivent et ne terminent pas leur premier roman. Donc, qu'est-ce qui t'a, voilà, quelles ont été les étapes, dans quelles conditions Royaume de Vent et de Colère a été écrit ? Moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette généalogie qui m'intéresse.
Alors, en plus, là, ça va être vraiment très particulier, je pense, très propre à moi. Le Royaume de Vent et de Colère, c'est un protocole. Je suis scientifique à la base. J'écrivais de la nouvelle. J'écris des nouvelles plutôt courtes, un peu de science-fiction. Et en fait, je me suis dit, donc j'avais pris un an pour moi dans ma carrière professionnelle. Je vais prendre 6 mois pour écrire un roman. Donc l'objectif, c'était en 6 mois de faire un protocole d'écriture pour voir si je pouvais produire un texte long, c'est-à-dire produire un ensemble de textes, un texte qui, sur la durée, formerait un roman. Donc il y avait un gros challenge derrière. C'était un protocole. Je m'étais dit, c'est 6 mois. J'ai formé mon groupe de relecteurs avec des grilles de relecture au fur et à mesure. J'avais des temps d'écriture, des temps de pause, des temps de retour. Et donc j'ai commencé en janvier, j'ai terminé début juillet, il y a eu des relectures en été et j'ai fait des retouches une semaine fin août, début septembre. Quelques jours après, je donnais le texte à un éditeur. Donc vraiment, c'était à la fois rapide.
À la fois rapide et très structuré en même temps.
Alors complètement, c'est ce qui m'a permis de me cadrer. Et la deuxième chose juste importante que je voudrais dire, il y a... Dans un de ses essais, je crois que c'est Berthelot qui parle des auteurs scripturaux, donc ceux qui sont plus et ceux qui sont plus sur autour d'un canevas, d'un plan très précis, ou au contraire ceux qui écrivent un peu au feeling. Je n'ai aucun plan, j'écris au feeling, je n'écris pas de façon linéaire. Donc ma contrainte, c'est j'écris comme je l'entends pour monter mon texte et je réécris énormément. Il faut savoir que par rapport à la version finale, il y a 60% de réécriture. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée.
Alors ça, c'est très important parce que c'est vrai que le rapport à la réécriture change en fonction des auteurs de façon considérable. Par exemple, quand j'ai commencé, je réécrivais systématiquement et les premiers contacts que j'ai eu avec mes éditeurs, justement, c'était vraiment apprendre à réécrire, à réécrire, à réécrire. Alors justement, ce premier contact avec l'éditeur, est-ce que la réécriture que toi-même tu t'étais imposé, donc d'une certaine manière tu dis 60% de réécriture, est-ce qu'elle a été bénéfique au point de t'éviter des réécritures plus ou moins imposées par l'éditeur, parce qu'on sait très bien, lorsqu'on écrit, qu'il est rarissime, alors c'est peut-être le cas ici, hein, tu vas nous le dire, mais il est rarissime qu'un éditeur accepte un roman comme ça. C'est très très rare. En général, il accepte le roman à condition que telle partie, tel personnage soit ajusté, retravaillé, un peu formaté, de manière à s'approprier le texte aussi, à se le rendre sien, à le faire sien aussi. Est-ce que ça a eu lieu ou pas, alors avec pour Royaume de Vent et de Colère ou pas?
Alors pour le coup, oui, c'est-à-dire il y a eu un travail éditorial. Alors pour repréciser à ceux qui connaissent pas, c'est moins peut-être imposé que effectivement l'éditeur donne plein de pistes de retravail, soit sur le fond, soit sur du détail, et après une espèce de bras de fer sur ce qu'on lâche ou ce qu'on lâche pas. Généralement, comme l'éditeur qui a de la bouteille, c'est pas pour rien qu'il vous le dit. Sur Royaume, il y a eu un peu de refonte, mais très peu, parce qu'il a bénéficié. Après, je me suis imposé aussi les règles en amont, c'est-à-dire il y a eu un travail, je dis, par un groupe de relecture, et le bras de fer s'est fait avant.
Voilà, c'est ça.
Le groupe de relecture disait ça, il faut. Moi, je disais non, puis oui. Enfin voilà.
Alors, on va venir maintenant un peu au sujet parce qu'on parle beaucoup déjà de technique. Alors, je pense que, alors surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Il y a un micro qui circule. C'est le souhait de Jean-Laurent Del Socorro hein, qui m'a expressément demandé que vous n'hésitiez pas à poser des questions sur les techniques d'écriture, sur la manière dont on fait ce premier roman, etc. Alors, venons-en sur le sujet un petit peu. Donc, c'est un sujet surprenant, évidemment, mais moi qui m'a énormément plu. 1596, Marseille. On est au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, en plein cœur des guerres de religion, autour de l'actualité de l'édit de Nantes et des enjeux politiques, diplomatiques de l'édit de Nantes. On voit cet univers d'une grande complexité, celui des guerres de religion. Il faut avoir quand même un sacré courage hein, pour un premier roman aborder la complexité de ce que peuvent, de ce qu'ont pu être, moi je le vois en tant qu'historien, les guerres de religion. Et puis non content d'être dans cette complexité, d'une période historique qui est pas si défrichée que ça dans la science-fiction, hein, cette période du XVIe siècle et des guerres de religion et des modalités de l'arrivée de l'édit de Nantes. Non content de faire ça, en plus, un nombre complètement faramineux de personnages hein, qui sont non seulement des personnages extrêmement différents les uns des autres, on pourrait presque parler de roman choral hein, d'une certaine manière, mais qui en plus ont une, et moi ça m'a fasciné, moi je suis vraiment admiratif hein, de ce que tu as fait, des personnages qui vont connaître une évolution profonde. C'est-à-dire que chaque personnage est très marqué, et en plus chacun a une évolution profonde, un positionnement qui est très différent. Donc ça veut dire que tu as dans ce premier roman ajouté une complexité contextuelle à une complexité narrative qui est quand même rarissime dans un premier roman. Tu n'es pas dans l'imitation d'un modèle, tu n'es pas dans le choix d'un modèle narratif de type narration omnisciente que font, qui est souvent le choix de beaucoup d'auteurs. Tu n'es pas dans l'idée d'un seul point de vue, un personnage à la première personne du singulier, ce qu'on trouve aussi souvent. Non, toi, tu vas vraiment, tu brises les codes. Et en plus, pour couronner le tout, la chronologie est déstructurée. C'est-à-dire qu'on navigue dans le temps, en avant et en arrière dans le temps, alors que tu aurais pu au moins te dire, bon allez, je pars voilà, du point de début, je pars de 1520 pour certains personnages et je vais jusqu'à la fin. Non, tu déstructures. Donc ça veut dire que tu déstabilises par la diversité des personnages, par la complexité du contexte et par le caractère, ce qui m'a beaucoup plu hein, évidemment, déstructuré de la chronologie. Waouh, quand même, t'as pas eu un peu peur non, à un moment donné de...
Alors, c'est drôle, je me suis absolument pas posé sur ce. En fait, il y avait un peu une évidence. Ce qui est intéressant aussi de voir par rapport à ça, la structure du roman, c'est un roman. Il y a quatre personnages forts. Un roman qui se déroule en 24 heures à Marseille, autour d'un siège. Et le roman est en trois parties. La première partie, donc le début des 24 heures. La troisième, la fin des 24 heures. Et au milieu, un grand flashback sur les personnages. Et c'est pour ça que je dis aussi, l'auteur, parfois, il est un peu orgueilleux, ambitieux. Sur le premier jet que j'ai proposé de relecture à mon groupe de relecture, il n'y avait que ces deux parties-là. Et l'enjeu, pour créer le roman, c'est-à-dire je casse un moment précis, un moment narratif. C'est assez monté comme une pièce de théâtre, en fait. Je le casse à un moment et je vais faire un flashback où je vais expliquer d'où viennent ces quatre personnages dont on parle, avec l'enjeu de me dire, quand on revient au présent, on ne revient pas avec les mêmes parce qu'on sait maintenant qui ils sont. Alors voilà, c'était là pour le coup, c'était assez prétentieux, mais c'est vrai que sur le moment, je me suis pas posé la question de est-ce que c'est compliqué ou pas en fait, par rapport à cette construction-là.
Tu avais vraiment voilà, c'est, en fait, tu es vraiment parti. Pour moi, tu es un auteur structure. Il y a les auteurs spontanés, les auteurs qui inventent leur récit au fur et à mesure. Pierre Bordage disait parfois que lui, il se laisse porter complètement, et puis on va voir où ça va. Toi, tu es un auteur structure, c'est-à-dire tu as vraiment tout prévu à l'avance. Tu t'es protégé d'une certaine manière de peut-être de dépassement qu'il y aurait, et tu es bien resté sur tes personnages, ta structure, etc. Alors, qui a lu le est-ce que quelqu'un a déjà lu Royaume de vent et de colère? Ah voilà. Alors il y a quatre personnages. Peut-être quel est votre personnage lequel vous a laissé, parce qu'on a tous chacun, je pense qu'on s'est dit chacun on a un personnage favori. Alors quel serait le vôtre? Il y a un micro.
Probablement Axel.
Axel.
la tavernière est ancienne militaire et probablement Armand aussi qui a un passif assez important. Oui.
Alors on va voir si l'auteur et le lecteur sont en syntonie. Alors Axel, Armand, est-ce que ce sont ces personnages-là
Alors c'est toujours
comment tu les as construits, vas-y.
Alors c'est toujours compliqué de savoir quel est son personnage préféré, surtout quand on l'a autant relu. Moi, Axel, c'est peut-être le personnage sur le récit sur lequel je me sens le plus proche. Il y a un personnage sur lequel je me sens assez proche, qui est celui de Gabin, qui va me permettre d'introduire aussi une dimension. C'est un roman, Royaume de Vent et de Colère, mais j'ai insisté pour qu'il y ait une nouvelle qui est un peu qui fasse partie donc de l'ouvrage, qui termine et qui, par le biais d'un personnage un peu particulier, un enfant, nous emmène sur une autre dimension un peu plus intime du récit. Et pour moi, ça fait partie de la construction. Royaume, c'est pas qu'un roman. Royaume, c'est un roman et la nouvelle. Pour moi, c'est indissociable.
Alors, par rapport à cet élément-là, il y a aussi un élément qui est important dans le roman, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, parce qu'on est plutôt dans une logique de roman historique pour l'instant. Mais il y a aussi une dimension, on va dire, plus fantasy, quand même, avec notamment tout ton travail sur la notion de larbon. Et j'aurais bien aimé que tu nous expliques ça, c'est-à-dire comment tu as intégré cet élément magique, en tout cas à la fois magique et fantaisie, bien qu'il soit quand même clairement expliqué et inscrit dans une institution et dans un travail qui correspond véritablement à un certain nombre de points de repère historiques. On pense peut-être au clergé régulier, à une certaine manière de structurer le travail autour de ce pouvoir de larbon. Pourquoi cet élément fantaisie ? Est-ce qu'il était dès le départ dans ton projet ? Est-ce que tu l'as rajouté pour te dire je vais m'inscrire un peu plus dans la fantaisie ? Ou est-ce que c'était...
Alors, ouvertement, quand j'ai voulu écrire un roman, je voulais écrire un roman qui s'intègre dans les littératures de l'imaginaire.
Voilà.
Le cadre historique, c'est un cadre fort que j'ai pris parce qu'il y a des... Généralement, on dit il y a trois choses sur un roman. Vous avez les personnages, vous avez l'histoire et vous avez le décor. Je ne suis pas vraiment raconter une histoire. Je peux raconter une histoire, mais elle n'aura jamais rien d'exceptionnel. Créer un décor en partant de rien, c'est à peu près sûr que je ne saurais pas faire. Donc le cadre historique est intéressant pour moi. C'est pour ça que le livre est essentiellement basé sur des personnages et créer des personnages, parce que c'est peut-être ma sensibilité, c'est peut-être ce que je peux amener au récit. Et autour de ça, j'avais besoin, pour que ce ne soit pas qu'un récit historique, d'une dimension fantastique. Mais je voulais quelque chose de discret. Et je ne suis pas le premier à l'avoir fait, mais je voulais quelque chose de discret. Je voulais une magie rare. Je voulais une magie qui était presque scientifiquement explicable, si j'ose dire. Je voulais quelque chose de sale. Donc c'est une drogue. C'est la pierre. On a une addiction à la magie. Un peu comme il y a l'apparition de la poudre et l'apparition de l'arbon, qui est une pierre rare qu'on ne maîtrise pas trop. Donc non seulement il y a un effet d'addiction qui détruit les jeteurs de sorts, mais en plus... elle détruit autour de soi parce qu'elle a des effets un peu comme l'uranium. Donc si on ne protège pas la pierre, en plus les gens développent des maladies. Donc on est vraiment sur une magie sale dont les gens ne se rendent pas compte de l'impact qu'elle peut avoir autour d'eux et qui est quand même utilisée parce qu'elle développe un pouvoir de domination très fort. Donc voilà, je voulais quelque chose de sale, je voulais quelque chose de maîtrisable et surtout, vraiment, je voulais m'inscrire d'emblée comme un roman de fantasy.
D'accord. Alors, au niveau de l'univers que tu as créé, qui est quand même un univers extrêmement nourri donc par l'histoire, c'est pas une uchronie. Hein, on n'est pas dans l'uchronie. Hein, tu n'as pas. Parce que c'est une question intéressante aussi. Les uchronies, on en a écrit beaucoup. Là, notamment les romans français, enfin les romanciers français ont fait beaucoup d'uchronies. C'est devenu très à la mode. Mais petit à petit, on est en train d'approcher, je pense, d'une époque où l'uchronie va devenir un peu moins le recours habituel de tous ceux qui écrivent autour des périodes historiques. Et tu es un bon exemple, moi je pense, Jean-Laurent, avec Royaume de Vent et de Colère, de quelqu'un qui va utiliser le matériau historique d'une façon différente des réflexes uchroniques habituels. Donc, est-ce que tu as pensé à cette, puisque tu dis avoir pensé à la magie pour l'aspect fantasy, parce que tu voulais t'inscrire dans l'imaginaire. Est-ce que la question de l'uchronie s'est posée à un moment donné ? Est-ce que tu t'es dit, bon, je vais, euh, je vais
changer
je vais,
le cours de l'histoire.
Voilà, je vais changer le cours de l'histoire. Je vais me plier à la mode uchronique en quelque sorte, puisque ça me permettra aussi de donner plus de puissance au roman. Ou est-ce que justement tu t'es dit absolument pas?
Alors,
c'est hors de question. Voilà.
Alors c'est absolument pas, et pour une très bonne raison. Déjà, j'avais les épaules très fragiles sur le contexte historique, c'est-à-dire je voulais que le récit soit. Je suis pas historien à la base, donc. Il faut que le matériel historique que je mets dans le roman, il soit crédible, il soit assez juste, ou du moins qu'il tienne la route. Donc j'avais déjà ce souhait que ce soit crédible et juste. Je n'allais pas en plus me permettre de dire « je vais faire une variation sur quelque chose que je maîtrise à peine ». Donc voilà, j'avais besoin déjà du matériel fort historique. Je vais donner une petite anecdote qui va aller dans ce sens-là. Quand j'ai dit que j'ai monté mon équipe de relecteurs, il faut savoir qu'il y en a très peu, mais j'évoque des combats de masse sur des scènes très courtes de l'époque. Il y a un de mes relecteurs à un moment qui me dit c'est très bien, hein, tes scènes de combat, elles sont très très bien, mais ça c'était ce qui se passait en 1550, enfin en 1600, donc t'es pas bon là, t'es vraiment pas bon, donc faut les réécrire. Donc tous les aspects de martiaux, j'ai dû les réécrire parce que mon lecteur qui était très pointu sur l'histoire m'a dit là t'as 50 ans de retard. Grosso modo j'écrivais 14-18 alors qu'on était en 39-45. Donc voilà, et du coup ça c'est un travail qui a été conséquent. Donc je me serais surtout pas permis de dire en plus je vais changer l'histoire alors que déjà je maîtrisais pas le matériel de base.
Alors, je te trouve d'une extrême modestie parce que, en réalité, le matériau historique, tu le maîtrises. Moi, je m'y suis penché en te lisant. Tu ne commets pas, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'approximation. Et justement, il y a quelque chose qui est très rare dans les premiers romans. Il y a une extrême sobriété. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui vraiment marque et qui fait toute la qualité de Royaume de Vent et de Colère. C'est que... tu ne t'engages pas dans des interprétations historiques sur le contexte, etc. Tu te contentes de voir le contexte du point de vue de tes personnages à chaque fois, de voir ce qui est important pour eux dans ce contexte des guerres de religion, et c'est tout. Mais ce qui fait de ton roman quelque chose d'extrêmement juste en réalité, puisqu'à aucun moment tu ne te laisses, comme on fait parfois quand on est un jeune auteur et qu'on veut démontrer quelque chose, à aucun moment tu ne te laisses aller à « bon, je vais vous donner mon interprétation des guerres de religion et voilà comment les choses auraient pu se passer, et voilà sans doute un peu d'histoire secrète, voilà ce qui s'est vraiment passé derrière ». Non, tu n'y vas pas. Tu restes dans la maîtrise du matériau historique que très sobrement diffusé et à chaque fois conformément au personnage. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai vraiment trouvé remarquable dans ce roman, c'est la maîtrise avec laquelle tu respectes le personnage, c'est-à-dire le point de vue d'Axel, le point de vue d'Armand, le point de vue de Gabriel, etc., sont vraiment juste adaptés au personnage. Tu ne fais pas dire à un personnage quelque chose que manifestement il ne peut pas savoir par son parcours. Axel ne s'exprime pas du tout comme Armand, ni comme Gabriel. On est vraiment dans quelque chose, et ça vaut pour le matériau historique. Tu donnes vraiment juste les éléments qui donnent un sentiment de véracité historique, sans te laisser aller à... Et ça, moi, je trouve ça, je te le dis vraiment, hein, c'est un peu le modérateur admirateur. Je suis impressionné par ce côté sobre et du coup extrêmement percutant du roman.
Moi, j'ai un peu une ligne de conduite quand j'écris. Je crois qu'il y a des gens qui disent, je pense que c'est assez juste, je suis bienveillant avec mes personnages. Et je ne juge pas. Dedans, il y a des salauds, il y a des gens, si vous avez l'occasion de le lire, je ne juge pas de ce qu'ils font. Voilà, ils ont une autre vie, ils ont fait des choix qui sont parfois contestables. Mais je reste bienveillant, c'est-à-dire que ce soit sur l'histoire, qui je suis pour expliquer l'histoire alors que j'ai tant d'années de recul et que ça n'a plus, pour moi, je n'ai plus les clés pour l'apercevoir. Je veux juste donner des éléments clés, je veux juste m'interroger ces gens-là qui ont pu peut-être exister à cette période-là, vivre avec eux. Là aussi, je vais revenir sur, juste très rapidement redonner un mot un peu technique. Moi, j'ai été formé à ce qu'on appelle l'approche globale. L'approche globale, c'est dire un individu dans un environnement donné, par exemple, je ne sais pas, un enseignant dans une salle de cours, il a raison de faire le cours comme il le fait. Ça ne veut pas dire qu'il le fait bien, ça ne veut pas dire qu'il peut faire qui ne peut pas faire mieux, mais il le fait de cette raison, parce que il aime enseigner comme ça, il a ses réflexes, il est persuadé que c'est une bonne formation. Et mes personnages, c'est pareil. Ils ont raison d'agir comme ça, non pas parce que ils ont la science infuse et qu'ils sont justes, mais parce qu'ils ont leur chemin de vie. C'est, d'ailleurs, c'est par ce flashback que j'essaie d'expliquer. Ils ont un chemin de vie qui est le leur et qui, heureusement ou malheureusement, va leur faire faire ses choix. Et je pense que c'est très important pour moi, de la même façon que il était important de ne pas faire un focus particulier sur les personnages. Il y a des personnages religieux, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des personnages, l'héroïne, on la surnomme l'Africaine. Voilà, c'est une femme capitaine, cela va de soi. Je ne voulais pas faire de mes personnages des gens singuliers. C'est juste des gens qui passent et qui ont fait des bons ou des mauvais choix.
Oui, là encore... Là encore, une intuition très... Alors, j'ai envie de lire un extrait, puisqu'on avance dans la rencontre. Est-ce que tu veux le lire, toi, peut-être ? Je voulais un extrait sur Axel, une des premières...
Je t'en prie.
Bon, alors, je vous lis un petit extrait, parce qu'il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est le style de Jean-Laurent Del Socorro. Et bon, je vous lis l'extrait. Alors, donc, le titre est du chapitre Axel. Gilles décharge les légumes et la viande qu'il a achetés au marché quand je reviens en cuisine. Les cageots sont moins remplis que la veille. C'est tout ? C'est la pénurie. Les prix augmentent. Il va falloir faire avec. L'armée du roi arrive. Si seulement c'était pour nous livrer de la farine et des porcs. Gilles descend le dernier cageot de la charrette. Il prend un instant pour essuyer la sueur qui lui coule sur les yeux. Au marché, un gamin m'a laissé un message pour toi. Ta mère veut te voir. Plus tard. Nous descendons les sacs dans la réserve. Les deux nouveaux clients, ceux qui sont arrivés cette nuit, je crois que ce sont des arbonniers. Gilles se retourne vers moi, furieux. « Quoi ? Tu leur as donné une chambre à ces putains de Pandoresse ? Je me trompe peut-être. C'est toi-même qui m'as dit qu'il ne fallait refuser aucun client. Et cela paie bien. » Il se renfrogne, sans rien ajouter. Nous regagnons la cuisine où Gilles passe sa colère sur les poulets en les enfilant avec violence sur la broche. Je charge mon plateau. Avec de nouvelles écuelles de brouet, en entrant dans la salle, je repère immédiatement les trois gardes qui se sont installés sur la grande table du fond après avoir laissé leur hallebarde contre le mur. Je reconnais parmi eux celui qui a annoncé la mauvaise nouvelle. Ils ont posé leur casque sur le banc pour s'approprier la table pour eux seuls. Ils n'avaient pas besoin de faire ça. Personne ne s'assoit à côté d'un garde. Les clients désertent déjà les tables voisines. « L'Africaine, par ici !» Je serre la mâchoire et lui fais signe que je l'ai entendu. Je finis de servir ceux qui sont arrivés avant eux. Quand j'arrive à leur table, ils me lancent un regard irrité. « Pas trop tôt, on allait mourir de faim. Tu ne voudrais quand même pas qu'on défende la ville le ventre vide. Hein. » Les deux autres gardes ricanent. « Amène-nous vite un pichet de vin et trois brouets, tout de suite. » Je me force à sourire. « Mais ici, on paie d'avance, soldat. » Son visage s'empourpre immédiatement sous l'effet de la colère. « Quoi ? Tu ne fais pas confiance à ceux qui te protègent ? Ramène ce qu'on te demande, femme, on n'a pas que ça à faire. » C'est vrai. Après, vous êtes saoulé, vous irez racketter les commerçants ambulants ou menacer une putain de la tabasser si elle ne se laisse pas faire. Je m'apprête à répliquer quand Gilles intervient depuis l'entrée de la cuisine. Je vous prépare ça tout de suite, soldat. Je le foudroie du regard. Il hausse les épaules. Gabin passe en trompe derrière lui avec une pile de bols plus haute que lui. Ah, merci, tavernier. Toi, au moins, tu nous comprends. Je repars vers la cuisine quand je sens une jambe qui se tend devant mon pied. Je perds l'équilibre, essaye de me récupérer une table, mais tombe bruyamment à plat sur le sol en lâchant mon plateau. Derrière moi, les gardes éclatent de rire. Oula, c'était un peu trop lourd pour une faible femme. Heureusement qu'elle a la tête dure. Il s'esclave de plus belle. Je me relève, furieuse. Ma main se crispe machinalement sur le montant d'une chaise. Gilles me supplie du regard de ne rien faire. Sans un mot, je ramasse le plateau et le rejoins. La faible femme s'en retourne docilement à la cuisine. L'Africaine, elle, n'oublie pas. Alors, ce que je vous ai lu, c'est un extrait d'un chapitre, donc très court, et quand même remarquablement, une écriture remarquablement percutante, dépouillée, maîtrisée. Et là encore, je suis désolé, je vais faire des compliments, ça te gêne, mais pour écrire comme ça, en général, il faut avoir fait plusieurs romans, ou en tout cas un certain nombre de nouvelles. Et le dépouillement auquel tu es arrivé, alors il y a deux solutions, hein. Soit tu as un très grand talent, ce qui est tout à fait envisageable. Soit tu as aussi un grand talent et un grand talent pour savoir aussi t'entourer, donc une équipe de relecteurs très vigilante aussi. Et c'est la question que je voudrais te poser sur le style. Moi, ce style-là, il m'a scotché. arriver à une telle maîtrise, il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a rien qui dépasse. On est presque dans l'oralité. Toutes les informations sont données au moment où elles doivent être données. Rien n'arrête le récit, rien n'arrête l'action en cours, rien n'arrête la dynamique de la lecture. Est-ce que tes équipes de relecteurs te conseillent aussi sur le style, hein, ou est-ce que ce côté percutant du style est à toi véritablement et te vient comme ça, tu le sens comme ça? C'est vrai d'Axel, mais c'est vrai d'autres passages avec d'autres personnages aussi.
Alors je pense que ce style-là, il est vraiment propre. Le mot oralité est très juste. En fait, je viens aussi du théâtre, j'ai une formation de comédien au conservatoire. Et cette oralité-là, c'est ce vrai faux dialogue que vous pouvez retrouver sur une scène de théâtre. C'est-à-dire les gens ne parlent pas comme ça, ils ne pensent pas comme ça. Par contre, sur une scène de théâtre, on ne peut pas prendre le temps, enfin on ne peut plus en tout cas sur les écritures actuelles, prendre le temps de se dire on va faire des monologues très très longs. Il faut que le texte soit percutant, précis. On passe vite d'un personnage à l'autre. Je pense que Royaume de Vent et de Colère, il a hérité de ça, il a hérité de l'oralité du théâtre, cette fausse oralité, ce faux dialogue. Et la chose courte, je pense que je ne saurais pas vous dire pourquoi, parce que je pense que oui, c'est comme ça que j'écris, ouais.
Oui, en tout cas, voilà. Après, bien sûr, il y a tout un tas de styles d'écriture. On n'est pas ici en train de donner des leçons de style, mais
non, pas du tout. Hein.
Voilà, j'exprime mon admiration subjective, en tout cas, partagée, je pense, par les lecteurs, de ta capacité à être au service de ton récit, véritablement, de l'action. Il n'y a même pas de didascalie, c'est très rare. Il n'y a même pas de verbe déclaratif.
Non, c'est vraiment
percutant. On sait toujours qui parle. Parce que bien souvent, quand les auteurs essayent de s'affranchir de « dit-il, dit-elle » en ricanant, etc., quand certains auteurs essayent de s'affranchir de ça, au bout d'un moment, on perd, on a besoin de revenir en arrière parce qu'on ne sait plus. Toi, non, pas du tout. Et ça, c'est vraiment remarquable.
Je donne deux éléments par rapport à ça. C'est un gros travail, notamment, que je fais, et surtout que mes relecteurs font, cette réflexion sur, puisqu'il y a peu d'indications, qui parle. Ça, je le dois beaucoup à mes relecteurs. Je les en remercie. Et le deuxième point, c'est je veux laisser au lecteur une part d'interprétation dans sa tête, moi qui suis un lecteur, de quel ton, quelle ambiance, qu'est-ce que j'y vois dans ce dialogue. Et de la même façon, mes descriptions physiques de personnages sont ça, je tiens d'un ami qui fait du dessin et de la BD. Je ne prends que j'essaie d'avoir que les détails signifiants. Vous rappellerez peut-être d'Axel qu'elle compte sur ses doigts de 1 à 5. Vous vous rappellerez peut-être qu'elle se voûte un peu quand elle s'énerve. Je vous mets au défi de me la décrire exactement physiquement, parce que ça, c'est à vous, c'est au lecteur. Et ça, c'est extrêmement important pour moi.
Ça, c'est quelque chose que je partage à 100% avec toi. C'est une conviction que j'ai eue dès le départ. Moi, elle m'est venue aussi des conseils qu'on m'a donnés quand j'ai commencé, notamment Gilles Dumais, hein, qui était aussi auteur et qui m'a donné d'excellentissimes conseils. Je le remercie chaque fois que je le vois pour ces conseils-là.
Je t'interromps juste. Vous avez peut-être des questions. Faut vraiment pas hésiter. Est-ce que vous avez des questions
parmi vous peut-être sont en train d'écrire un premier roman et se disent ça va être à nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Il y a un micro qui circule, voilà. Et puis après, on parlera de la suite, du futur, de ce que tu prévois derrière.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis lectrice, mais pas de vos romans. Je ne suis pas lectrice de tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Je suis venue parce que je voulais savoir ce qui se passait un peu. Mais je voudrais vous dire que vraiment, j'ai entendu seulement le passage de cette africaine là, et je me suis trouvée à ses côtés. Je me suis trouvée dans le passage. J'étais à côté, j'étais dedans. Et ça, je vous remercie, parce que quelquefois, les écrivains donnent des situations avec des mots ampoulés, machin, truc, on n'y comprend rien. Vous, là, moi, je vous assure, j'étais dedans. Hein. Et de ça, je vous remercie. Et pourtant, je ne connais pas votre roman, je ne vous connais pas, mais ça, je vous remercie.
Très bien.
Merci à vous.
Est-ce qu'il y a une autre question? Ou plutôt, alors, c'était des compliments, c'est très bien. Tu vois, c'est impeccable. C'est vraiment ton texte magnifique, magnifique.
Alors, moi, je voulais savoir...
Parlez bien dans le micro, parce qu'il y a...
Pardon. Moi, je voulais savoir quelle était votre relation avec votre groupe de lecture. Parce que, par exemple, si vous faisiez genre un chapitre, après, vous le prenez et vous le donniez au groupe de lecture, au groupe de relecture, ou alors vous écriviez énormément, puis d'un seul coup, vous demandez, puis... vous aviez beaucoup de travail après. Parce que ce que je trouve compliqué, c'est justement de la structure de la narration. Plus c'est compliqué, plus moi-même je me perds dans tout ce qu'il faut faire, quoi. Donc du coup, savoir comment vous avez fait, quoi.
Alors c'est une excellente question. Comme je dis, moi je travaille le jour 1, j'ai pas un plan, j'ai rien. J'aurais dû amener, ça aurait été drôle. La veille du jour où j'allais commencer, j'ai pris il y a une dizaine de notes. Ça vous aurait donné l'idée de comment ça part. Pour revenir sur le lien avec mon groupe de travail, c'est relativement simple. C'est mon protocole, c'est moi qui mets les règles en place. Donc je me suis dit, j'ai 6 semaines d'écriture. Au bout de 6 semaines, il faut que j'arrive à ça. C'est une trame. Alors ça parlera peut-être pas à ceux qui n'ont pas l'habitude des livres, mais il me fallait 150 000 signes. 150 000 signes, c'était le squelette de l'histoire. Et la première validation, c'était pas sur les virgules, on n'en était pas. C'était sur est-ce qu'on y croit, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Là, je peux dire déjà, ça a taillé. La plus grosse difficulté, c'était le démarrage, la scène de départ. Mais je pense, on pourrait en faire un sketch, je pourrais en faire un atelier en fait. C'est-à-dire que ah non, mais ça c'est pas comme ça. Puis non plus, voilà, ça a été réécrit au moins 6 ou 8 fois. Et quand je dis réécrit, c'est j'abats complètement des morceaux pour réécrire. Hein. Et donc du coup, au bout de 6-8 semaines, je leur envoie une grille avec ce que je veux, quel niveau de lecture, ils me le renvoient. Je continue. Je fais un deuxième canevas, cette fois entier, qui représente 250-300 000 signes, la taille du roman. Ils me le revalident. Et dans la troisième réécriture, une fois qu'on a validé tout ça, on rentre dans le détail. Donc il y a 3 grosses phases de réécriture, avec des points assez violents. Il y en a eu 2... un que je vais oublier malheureusement, mais effectivement le premier, ça a été voilà, donc l'erreur historique sur l'armement des combats, donc qui est pas rien parce que du coup ça remet en cause mais énormément de choses et ça réinjectait plein de nouvelles idées dans le roman. Et la deuxième chose, j'ai oublié, mais il y a eu un travail de réécriture assez important sur un des personnages qui n'était pas crédible. Et là, il y a eu un changement énorme, donc je l'oublie, c'est qu'il y a 2 personnages qui sont amants, donc Armand et Roland, donc les Arbonniers, les fameux magiciens. Et dans la première écriture, c'était, on voyait le point de vue de l'élève de Roland. Et en fait, les relecteurs m'ont dit, mais tes trois voix principales, elles sont parfaites, mais celle-là, ça marche pas. Il nous faut, c'est le maître qu'on doit suivre. Et là, je peux vous dire aussi que le travail de réécriture est singulier. Quand vous êtes trompé, là, c'est une vraie erreur d'écriture, que vous n'avez pas pris la bonne entrée.
Ça crée confiance quand même. Moi, je suis vraiment c'est hyper intéressant pour moi par rapport au parcours d'auteurs que je connais. La confiance que tu as, il faut savoir ce que ça représente de réécrire. Hein. C'est douloureux, c'est angoissant. Et en général, on ne le fait que quand le bouquin est accepté et qu'on sait qu'à la clé, il y a la publication. Et à ce moment-là, on va dire, moi je sais combien de fois j'ai réécrit La Cité du Soleil à l'époque, qui ne convenait pas. Moi, l'éditeur m'avait dit dans la première version de La Cité du Soleil que j'avais donnée, il m'avait dit c'est La Cité du Sommeil. C'est d'un ennui mortel, il faut tout refaire. Donc on avait tout repris. Mais je l'avais fait parce que je savais que derrière, le bouquin, il existait. Toi, tu l'as fait avec une équipe de relecteurs. Alors bien sûr, en vous disant, bien sûr, le bouquin va exister. Mais en amont, vraiment. Et moi je dis, c'est un courage. Il y a un travail de confiance, de travail d'équipe hein, qui est vraiment... c'est la première fois dans le milieu de la science-fiction de tous les gens que je fréquente, que je rencontre, avec lesquels je discute d'écriture, que j'ai ce récit-là de construction d'un roman en équipe, avec une équipe de relecteurs, en amont de toute acceptation, de tout projet de publication.
Alors, je vais revenir sur la notion d'équipe, c'est extrêmement important pour moi. À un moment, tu évoquais soit le talent de s'entourer. Le talent d'écriture, c'est faux, je ne l'aurais pas. Par contre, c'est vrai que je sais plutôt bien choisir mes équipes et c'est extrêmement important pour moi. Je voudrais juste prendre 2 minutes pour parler du cercle vertueux de ce que c'est écrire un roman. En amont, il y a ce travail-là, c'est-à-dire ce travail où j'ai choisi des relecteurs. Effectivement, je leur fais confiance. Il y a tout un bras de fer sur des choses que moi, je ne veux pas lâcher, que eux m'injectent. Donc ça, c'est avant de le poser à l'éditeur. Ça arrive chez un éditeur qui va faire un travail. J'ai 2 relecteurs, un travail qu'on appelle d'édito. Donc là, je retravaille avec l'éditeur sur des choses. Pareil, des choses que je vais lâcher. Là, on est vraiment sur du détail. Vraiment, il y avait comme un gros travail en amont. Ça a été des réglages qui ont été importants, mais c'était quand même du réglage un peu plus fin. avec la personne qui fait la maquette, qui me fait une relecture là sur le choix des mots, sur les redondances. On a un troisième travail par-dessus. Et je vais aller encore plus loin, c'est que derrière, le bouquin, il n'existe pas encore, mais il y a encore deux personnes qui vont travailler. Donc ça, c'est le travail de relecture, ça a été Jérôme, donc d'ActuSF, et de Marie, qui a travaillé sur la maquette et la dernière relecture. Puis il y a deux autres personnes importantes, c'est Eric Holstein, qui va travailler le graphisme qui va choisir un graphiste et un dessinateur pour l'objet livre, donc avec une superbe illustration de Mila Kiakoubiec, où je trouve que c'est exactement ça. Donc ça aussi, ça fait partie du travail d'équipe. Et enfin, il y a le travail de Charlotte Volper, qui, elle, pour le faire exister, il faut qu'il soit lu avant même qu'il sorte, qui va travailler avec des blogs, qui va travailler avec des lecteurs pour que les gens le lisent et disent ce qu'ils en pensent avant qu'il existe. Ça, c'est le travail d'édition aujourd'hui. Il est indispensable pour que le bouquin que vous ayez en main arrive aujourd'hui dans l'état où il arrive. Et on a tendance à l'oublier. Je ne veux oublier personne dans cette chaîne-là.
Oui, c'est vrai qu'on dit toujours que le travail d'auteur est solitaire. C'est et faux, alors qu'en fait, faux. C'est faux. C'est souvent énormément de gens qui arrivent. Aujourd'hui, vous savez, à l'heure où on peut publier très facilement n'importe où sur Internet, mettre en licence Creative Commons, etc., où il y a énormément de vivacité d'écriture, c'est vrai que c'est très séduisant de se dire j'écris très facilement, je publie. Mais c'est vrai que tout ce travail-là, en amont, en équipe, avant l'acceptation du bouquin, puis ensuite, après l'acceptation du bouquin, et encore des modifications qui sont dures pour un auteur. Hein, quand on te dit, une fois que le bouquin est accepté, bah finalement, ce passage-là, alors que c'est peut-être celui que tu préférais, il faut le supprimer, etc. Tout ça pour arriver enfin à cet objet et à cette qualité de travail éditorial qui vous donne accès à un roman qui est vraiment, voilà, qui est vraiment abouti. Et encore une fois, pour un premier roman... voilà, il y a très peu de premiers romans en science-fiction dans les. Il y a beaucoup de bons premiers romans, hein, c'est voilà, mais d'un aboutissement à la fois formel et thématique tel que Royaume de Vent et de Colère, c'est quand même, moi honnêtement, c'est rarissime. C'est pas des compliments de flatterie, c'est vraiment rare. Moi, je suis tombé. J'en lis beaucoup, hein, pour les utopiales. Hein, j'en reçois beaucoup pour les utopiales. J'en lis beaucoup. C'est très très rare. Donc garde bien ça parce que c'est très précieux. Et j'espère que tu continueras ce travail en équipe. Ce qui m'amène à la question d'après. Tu as aussi une nouvelle dans l'anthologie des Utopiales, qui est dans le même univers que Royaume de Vent et de Colère. C'est quoi? C'est un spin-off? C'est un clin d'œil?
On peut dire que c'est un épilogue, alors qu'il se lit indépendamment. Le thème de cette année, c'est réalité. Là aussi, je vais essayer de faire court. On dit souvent que la science-fiction, c'est la prospective de l'avenir. La fantasy ne parle pas de l'actualité. Donc, je pense que quel que soit le média, que ce soit du polar, quoi que ce soit, la fantasy, on peut parler d'actualité si on met l'intention dans son texte. Le récit, il a lieu 2 ans après la fin du roman. C'est un personnage secondaire qu'on va suivre, une compagnie de mercenaires, et on se trouve à une date assez précise, au pied du château de Nantes, à un certain édit qui est relativement important, parce que ça va être la signature de l'édit de Nantes, et on va revenir sur ce passage-là, qui aujourd'hui, en 2015, en Europe et même dans le monde, ce rapport aux religions et au fait que toutes les religions puissent s'asseoir ensemble sans conflit, c'est relativement important, et je trouve que redire qu'à une époque des volontés politiques, le rappeler, pour moi, c'était assez important. Et ça va me permettre aussi de rappeler quelque chose par rapport encore au travail d'équipe. Sur ce travail-là, donc d'écriture de cette nouvelle, j'ai fait un premier jet, et un de mes relecteurs, grosso modo, hein, je vais faire très court, m'a recalé le texte. Il m'a dit « Tu es à côté, c'est pas bon, tu enfonces toutes les portes ouvertes. » J'ai dû reprendre l'intégralité du texte. Donc une réécriture complète. Ça ne veut pas dire que je suis reparti de zéro, mais c'était une réécriture complète. Donc il y a quand même... mais je choisis aussi mes relecteurs. J'ai quand même confiance en eux quand ils me disent voilà, là, c'est pas bon. Et je pense que c'est extrêmement, extrêmement important. Et je reviens. Mon écriture est une écriture d'équipe. Et ce que j'essaie de revendiquer, c'est de la bienveillance dans ce que je dis. J'essaie de ne pas juger. Et j'essaie d'avoir un écho quand même avec ce qui se passe aujourd'hui. Voilà.
D'accord. Alors, donc on est dans la continuation de Royaume de Vent et de Colère, donc travailler en équipe, etc. Je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir connaître ton équipe et ils vont vouloir te la piquer. Tu vas avoir des tentatives de débauchage de ton équipe de relecteurs, fais gaffe. Ça va arriver sans doute très vite. Pour l'avenir, c'est quoi alors? Quels sont les projets de Jean-Laurent Del Socorro? J'espère que ce bouquin-là va faire un très beau parcours. J'espère qu'il y aura aussi une reprise en poche. Je te le souhaite vraiment.
Croisons les doigts,
parce que pour un auteur, c'est très important, hein, la reprise en poche. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, la durée de vie d'un livre est très courte, de plus en plus courte. Hein. Un livre, il va être en librairie comme ça pendant 3-4 jours, puis après, il va être comme ça en librairie pendant un mois, puis après, il va être comme ça pendant 3 mois, et puis après, il n'y est plus. Donc, la durée de vie d'un livre, c'est en gros 3 mois. Et la possibilité d'une reprise en poche, c'est aussi une possibilité de rentrer dans un catalogue qui va être beaucoup plus accessible, moins cher évidemment, donc beaucoup plus facile d'accès. Et ça, c'est très important pour les auteurs aujourd'hui, notamment pour les auteurs d'imaginaire. Cette reprise en poche, c'est pas le Graal, mais c'est quelque chose qui est fondamental dans la possibilité pour un auteur de continuer à faire son travail.
C'est une deuxième vie éditoriale, et en plus du coup qui peut être un peu sur une longévité, une période de temps un peu différente.
Un peu plus longue. Alors du coup maintenant on arrive petit à petit vers la fin. Avant d'arriver à ma dernière question, est-ce qu'il y a des questions par rapport au travail de Jean-Laurent Del Socorro, par rapport à... Oui, allez-y, avant que moi je pose la dernière question.
Ultime question. Bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y.
Donc, je vais revenir une fois de plus sur votre équipe, parce qu'on en a beaucoup parlé. Du coup, je suis assez curieuse de savoir comment vous choisissez votre équipe. Quelles sont les qualités pour vous d'un bon relecteur ? Parce que bon, ça demande quand même un travail particulier qui est très différent du travail, très différent de ce qu'un lecteur lambda va ressentir en lisant un texte. Enfin, c'est vraiment un travail à part entière. Donc, je suis assez curieuse de savoir. Comment vous avez déterminé qui serait dans votre équipe et pourquoi ? Et comment vous les avez convaincus également de s'engager dans l'aventure, sachant que ben, ça doit demander un certain temps quand même de travailler sur ces relectures.
Est-ce qu'ils sont rémunérés alors ?
Même pas. S'ils ont eu un exemplaire du livre.
Alors, j'espère qu'ils ont au moins un exemplaire du livre quand même.
Même pas, débrouille-toi. C'est une excellente question. Je vais faire la réponse courte. Si vous voulez, après, on pourra en discuter un peu plus sur une réponse longue. J'avais eu aux Utopiales il y a 3 ans un atelier, un cours du soir avec Velman. Il a dit 3 relecteurs. Si Fabien Velman, scénariste BD qui vend des millions d'albums, qui lui aussi a fait beaucoup d'essais, dit il faut un groupe de 3 relecteurs. Je prends 3 relecteurs. 3 relecteurs, il faut qu'ils soient très différents. Je ne veux pas trois mêmes retours. Je veux avoir confiance en eux, c'est-à-dire qu'on peut s'engueuler. Donc il faut que ce soit plutôt des amis, parce que ça va être c'est tendu parfois. Et du coup, j'ai les 3 niveaux de lecture. J'ai quelqu'un qui va s'intéresser plus aux personnages, à la sensation globale de l'histoire et du récit, qui va me dire « Ah, là, ça fonctionne trop bien, là, c'est nul, moi, je verrais plutôt ça. » Donc quelque chose qui est plus dans l'immédiat et le ressenti. Quelqu'un qui a un regard technique et très historique sur le détail. Et la dernière personne, c'est quelqu'un qui est plus sur le verbe et l'écrit. Il se trouve que pour Royaume, celle qui était sur le verbe et l'écrit, malheureusement, a eu des problèmes de santé. Et mon groupe a été réduit à 2. C'est pour ça que le travail, finalement, sur l'écriture, s'est fait plus avec Jérôme Vincent et Marie Marquez sur ce travail de finition. Mais finalement, les 3 relecteurs y sont. Donc des gens en qui vous avez confiance, c'est des gens qui ont 3 regards différents. Et c'est des gens qui peuvent vous dire les choses parce que vous avez confiance en eux. Et qui peuvent entendre des choses de vous parce qu'ils ont confiance en vous. Donc c'est extrêmement important.
Ils doivent être très fiers là maintenant que le livre existe. Je pense qu'ils sont très heureux. Vous avez dû très fiers d'avoir contribué à l'existence de ton roman.
Oui, il faudrait leur poser la question. Ce qui est très drôle, c'est que demain aux Utopiales, ce qui n'est pas arrivé depuis la sortie du roman parce qu'on est à distance, demain j'aurai mes 2 relecteurs qui seront avec moi aux Utopiales pour la première fois depuis la sortie du roman. Donc en plus, voilà, il y a quelque chose. Quand je dis le cercle vertueux, c'est ça aussi, ça va être chouette, quoi.
Super. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions, peut-être ? Non ? Alors, la dernière question, c'est les projets. On y vient un peu tard, mais il nous reste encore quelques minutes. Alors, après Royaume de Vent et de Colère, après la nouvelle pour les Utopiales, qui est liée à l'univers du roman, à l'édit de Nantes, etc. Et on a très, très bien compris les raisons pour lesquelles, en plus, merci d'autant plus d'avoir respecté la thématique du festival, parce que c'est toujours difficile, lorsqu'on écrit une nouvelle un peu comme ça, si c'est une commande pour une anthologie, de trouver quelque chose qui soit vraiment dans la thématique. Donc là, les religions, le rapport des religions, enfin, c'était vraiment très bien, évidemment. Donc, quels sont tes projets après ? Est-ce que tu restes dans une logique, alors je pense que ton équipe de relecteurs, tu la gardes bien sûr, oui. Mais voilà. Mais est-ce que tu restes dans une logique de roman historique avec un brin de fantaisie ? Est-ce que tu vas creuser l'univers ouvert avec Royaume de Vent et de Colère ? Ou partir sur toute autre chose, du futur, une autre période historique ? Qu'est-ce qui...
Alors, il y a deux envies. La première réponse, c'est il n'y aura pas de suite à Royaume, parce que souvent on me pose la question, il n'y aura pas de suite. Par contre, je n'en ai pas fini avec cette période, peut-être pas avec tous ces personnages. Donc, ils réapparaîtront, je ne sais pas quand, je ne sais pas sous quelle forme, peut-être de récits plus courts. Voilà. Donc, petit à petit, il y a des fils qui seront tirés de ça. Mais ça ne va pas être ma priorité. Je reviens dans de l'historique. Je reviens sur une époque qui sera totalement différente, puisque je reviens... parce qu'on m'avait dit Marseille 1596, voilà, c'est un peu précis. Alors je reviens, vous allez voir, sur quelque chose qui est extrêmement mainstream, puisque ça va tout de suite vous parler. On revient en l'an 60 dans le sud de l'Angleterre, donc la conquête romaine, là aussi oui c'est méconnu, avec un personnage historique qui s'appelle Boudica, qui a été la figure de résistance aux Romains dans le sud de l'Angleterre, une reine très puissante, la reine des Icènes. Voilà, qui va faire beaucoup parler d'elle, qui est l'équivalent entre guillemets notre Vercingétorix français.
Donc l'Antiquité là cette fois-ci.
Ah ouais, là on est.
T'éloigne un peu, d'accord. Et est-ce que, alors, je veux pas te faire dire des choses, voilà. Mais est-ce que tu vas garder ce type d'écriture aussi Je parle pas du style, hein, ça c'est. Mais je parle de la structure du roman avec différents personnages, alors, un peu chorale, hein, ou peut-être pas.
Non, en fait, j'ai un autre projet qui est beaucoup plus ambitieux et je me suis rendu compte que en termes d'écriture, j'étais pas prêt. Voilà, j'étais pas assez solide, donc il fallait que je passe par autre chose. Et je me suis dit, il faut affronter les choses qu'on ne sait pas forcément faire. Donc je vais faire un récit très simple avec un personnage qu'on va suivre de façon chronologique sur son histoire. Et je vais m'intéresser de quelque chose qui historiquement est compliqué parce qu'on a très peu de données sur elle. Cette femme qui va quand même lever 11 rois et fédérer 11 rois pour aller taper du Romain et limite les mettre hors de l'île d'Angleterre, c'est pas rien. Qui est cette Boudica ? Comment elle s'est construite ? Qui est cette femme ? Et de sa naissance jusqu'au moment où elle prend les armes, partager un point de vue par rapport à ça. Voilà, vraiment un questionnement historique autour de ça et d'un personnage. Donc j'essaie d'être plus simple et de travailler mon écriture. Là, on est vraiment sur un... Si, je ne sais pas si on a le temps, on a 5 minutes ?
On a 5 minutes, si on tu veux lire minutes. Un extrait ou...
Alors, ce que je... la même façon, j'ai envie de vous proposer... C'est un work in progress, donc les gens avec qui je travaille, je ne dis jamais rien tant que ce n'est pas terminé. Et je voulais vous proposer, puisque vous êtes là à m'écouter, un travail. Donc vous voyez, c'est un brouillon d'un passage. Je l'ai même repris tout à l'heure, il y a 30 minutes, enfin maintenant il y a une heure pour vous, pour le retoucher. Donc c'est une scène, un morceau de travail de ce que peut être ce travail sur Boudica. 60 battements de cœur avant la mêlée. J'ai peur, comme jamais auparavant. Être en première ligne, ce n'est avoir que le vide devant soi qui se réduit inexorablement à chaque pas que vous faites vers votre adversaire. Cette distance absurde et trompeuse qui vous éloigne du premier coup de glaive. 5 battements de plus, et l'armée romaine s'avance enfin vers nous. Nous faisons, nous aussi, le premier pas. Ici, je ne suis plus rien, un maillon de cette chaîne que nous formons, de cette armée hyssène, que tout oppose, si ce n'est l'envie commune d'exister. Les dieux ne doivent apercevoir de nous qu'une marée humaine où toutes les couleurs de peau se mélangent pour fondre en désordre sur le mur d'acier de nos ennemis. Notre pas est devenu course. Une vague bleue de tatouages emmêlés. Puissions-nous être celle qui balaie la grève et pas celle qui se brise sans force au pied des rochers. Dans 15 battements de cœur, nous serons réunis. Maintenant, la joie m'enivre. Je réalise que je hurle avec les autres guerriers, si fort que nous encombrons les corps pourtant puissants des légions romaines. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Le peuple hyssène a pris en main son destin. Je ne sais pas si c'est le bon choix, mais c'est le nôtre. Nous avons le droit à l'erreur, mais pas celui d'être insatisfait et de ne rien tenter. Peut-être y avait-il un autre chemin que celui des armes. C'est celui sur lequel nous nous sommes engagés, insoumis et sans haine. Notre combat est moins une révolte qu'une ultime tentative pour exister. 5 battements encore, la peur est loin. Je vis pour la première fois. Non, je viens au monde. Ma naissance n'était que le préquel à mon éveil. Je suis enfin incarné, ni devant ni derrière, mais bien dans l'instant, où mes choix peuvent encore tout rendre possible. Je suis orgueilleuse et fière de mes Icènes. Il est trop tard pour penser à la déception de la défaite. Vivons, battons-nous enfin, et libérons-nous peut-être de cette soumission qui nous écrase. Nous n'avons à perdre que cette bataille et nos vies. Nous avons déjà gagné notre libre arbitre. Le dernier battement. Les deux armées, lancées l'une contre l'autre, se rencontrent enfin. Dans une autre réalité, cela aurait peut-être été les mains tendues, les corps jetés pour se serrer les uns contre les autres, enfin réunis en un seul peuple sans visage. Dans ce présent-là, nous nous rencontrons, et les boucliers sont en avant et les glaives levés. Ils se frôlent à peine dans cette ultime seconde où le temps semble suspendu. Je contemple le monde immobile comme un champ de pierre levé aux formes humaines, éclairé par le soleil qui est maintenant tout à fait sorti de son sommeil. Nous sommes beaux, nous n'avons rien à envier aux dieux. Pourtant, ce sont eux qui agitent le gobelet où se mélange notre avenir. Ils font rouler les dés qui s'immobiliseront sur le nom du vainqueur. Non, pas cette fois. Le temps reprend son cours et les runes divines éclatent en morceaux entre nos boucliers qui s'embrassent. Les dieux non plus ne peuvent pas nous soumettre. Nous serons seuls artisans de nos victoires et de nos échecs. Les hommes ont repris le contrôle de leur destin. Le choc, enfin. Je tremble sous sa violence. Les Romains, au rang impeccable, offrent une ligne ininterrompue d'acier que nous percutons sans aucune logique, si ce n'est celle du guerrier le plus rapide qui arrive en premier. Nous sommes le désordre. Les centurions s'avancent pour nous repousser. Nos boucliers de bois semblent soudain bien fragiles, appuyés sur ceux si réguliers de nos adversaires. Mais nous avons choisi d'être là et nous y resterons. Nos rangs se serrent, nos épaules se soudent. Et soudain, cette Rome à l'aigle si sûre de sa puissance, si fière de son armée, si glorieuse enfin de ses légions au rang impeccable et de ses dieux si nombreux, ne nous fait reculer que d'un pas. Un pas. Nous n'en accorderons pas un second. Merci.
Merci beaucoup Jean-Laurent, merci de cette rencontre, merci d'y avoir participé. C'est rarissime d'entrer dans l'intimité d'un auteur comme ça sur un texte qui n'est pas encore, qui est en cours d'écriture. Donc merci pour ce cadeau. Et puis bonne utopiale à tous et bonne continuation. Voilà.
Merci à vous.